Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash, un épisode de news pour juin 2025. Et comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex.
Salut Patrick, salut tout le monde.
Bah, donc épisode de news, tu nous fais un petit sommaire pour...
Exactement, on revient, et bah oui, on va parler de Nux qui va bientôt passer en version 4 avec toute l'évolution qui va derrière. Spoiling alert, il n'y a pas de gros breaking change, mais il y a quand même des choses qui changent un petit peu. On va parler de Laravel Nightwatch, on va parler de PHP Node avec une fusion, un truc un peu sympa. On va parler d'Apple et qui vient attaquer le monde des conteneurs et de Docker. On va parler des menteurs, des mecs qui ont codé qui ont fait de l'apprentissage sur des modèles et ils nous ont menti sur des benchmarks. On va parler de MCP, on va parler de lint où on peut linter maintenant des milliers de fichiers en quelques millisecondes. Voilà, ça c'est le programme de cet épisode news.
Et de Cursor, ton éditeur préféré en ce moment.
Ouais, mais ouais, il faut tester. Et effectivement, il y a des trucs plutôt sympas quand tu commences à fusionner avec des MCP, des choses. Il y a vraiment des choses très très intéressantes. J'étais plutôt pas trop emballé. Il y a vraiment une hype. Et au final, quand tu testes, il y a des gains quand même significatifs. Mais on va en reparler tout à l'heure.
Ouais, ça roule. On va remercier nos sponsors, évidemment. Merci à tous les sponsors qui nous soutiennent tous les mois via GitHub Sponsor. Voilà. Merci à eux.
Et toutes les personnes qui font l'effort de nous mettre un petit commentaire, de partager la vidéo. Ça nous aide aussi à gagner en diffusion et ça nous fait toujours extrêmement plaisir. On attaque tout de suite.
Allez, go.
On rentre dans l'annonce en fait de Nuxt qui passera en V4. Pour rappel, en fait, il y a une grosse migration qui a été faite de Nuxt 2 à Nuxt 3 parce que déjà il y avait version de Vue aussi qui évoluait. Ils sont passés de l'option API par défaut à la composition API par défaut. Ils ont tout réécrit, ils ont pris chaque brique, ils l'ont toute réécrite totalement. Là, la version 4, c'est plus une évolution classique. Ils réorganisent un petit peu les fichiers et la structure en fait des dossiers pour qu'on puisse pour que les gens de Next s'y retrouvent aussi parce que tout vient de basculer dans un dossier qui s'appelle APP. Donc ça se rapproche c'est un peu ce qu'on dit depuis pas mal de temps. De toute façon, il y a une sorte de convergence et d'uniformisation sur des bonnes pratiques, ce qui fait que passer de Next à Nuxt, on vire React et on met Vue, mais mine de rien, c'est pas non plus un shift monstrueux, quoi. Et donc, même si de toute façon Nuxt est quand même vachement mieux, on est d'accord.
Ouais. Non, c'est intéressant, j'avais pas suivi ça, comme quoi il y avait un dossier APP. D'accord. Donc ouais, il n'y a pas de grosses nouveautés, ouais, c'est surtout des petits changements, des optimisations, des choses comme ça. Il y a eu tellement de changements entre la 2 et la 3 que on va se calmer, la 4 tranquille, et puis on verra peut-être pour la 5.
Exactement, après il y a plein de petits trucs qui sont vraiment sympas, des utilitaires en fait. T'as une fonction utilitaire et t'étais obligé de la déclarer côté serveur et côté client si tu étais obligé de l'utiliser, si tu voulais l'utiliser dans les deux. Donc t'avais les personnes qui disaient nous on fait un monorepo, donc on met dans un package séparé. Et là, en fait, ça va être intégré nativement dans Nuxt, où en fait, tu vas pouvoir partager des utilitaires côté front, côté back, sur des fonctions. Voilà, tu as plein de petites modifications comme ça. Et surtout, en fait, ils expliquent vraiment que maintenant ils vont partir sur des releases beaucoup plus fréquentes pour justement en fait limiter ce breaking change ouais. à chaque fois sur pour arrêter de faire peur sur ouais. des versions majeures quoi. On se rappelle encore de la version d'Angular où ils avaient tout pété et ça avait fait vraiment beaucoup beaucoup de mal à l'écosystème et le framework ou la librairie on avait pâti. Donc l'idée c'est de minimiser justement cette crainte mmh. en faisant des releases un petit peu plus courantes
régulière et
régulières. Ouais, exactement.
Graduellement, tu montes en version et puis jusqu'à la version. Bah, c'est ce que font WordPress, c'est un peu le même style aussi, pareil. Ils font beaucoup de versions comme ça. Ça fait moins de choses qui cassent quand tu passes à une version majeure.
Exactement. Mmh. Et okay, donc, de manière, on va dire, classique suite logique, ils bossent aussi sur H3, la version 2. Par contre, H3, on se rappelle, c'est l'équivalent de pas de Express, mais vraiment le petit serveur HTTP et qui va gérer en fait tout le routing et tout ça. Et là, ils sont en train de le réécrire. Par contre, c'est déjà annoncé qu'il ne sortira pas sur la version 4 de Nuxt, mais sur la version 5. Et on gagne en rapidité, en exécution. Pour le coup, on avait fait un espèce de workshop sur Nitro, en fait, qui est la partie back-end de Nuxt, où en fait, on vient expliquer et la grosse partie de Nitro utilise H3 pour faire son routing et pour faire un micro serveur web. Micro, mais vraiment super puissant. Et surtout, il est totalement portable sur n'importe quel environnement, que ce soit Node, Deno, Bun. Et donc, ça, c'est plutôt intéressant.
Ouais, c'est ça.
On peut faire du WebSocket, on peut faire du SSE, on peut faire du stream. Voilà, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Donc, ils travaillent derrière pour pousser cette nouvelle
version. Ouais, c'est au cœur de Nuxt et d'autres frameworks aussi qui l'ont adopté. J'ai vu qu'en fait, là, la principale nouveauté, c'est qu'ils repassent sur du natif, en fait, comme les responses, tout ça. Tout ce qui est natif web plutôt que réécrire les choses. Et ouais, la grosse force, c'est qu'il est vraiment compatible Edge. Enfin, tu peux le mettre partout, il est hyper portable. Et ouais, ce qu'ils expliquent aussi, c'est qu'ils ont fait une librairie comment elle s'appelle ? SRVX, en fait. Pour autant Deno et Bun, ils sont déjà Edge Worker, tout ça, machin, compatible. Apparemment, c'est plutôt Node qui pose problème, puisqu'ils ont réécrit les responses, tout ça. Donc, ils ont dû faire une sorte de wrapper pour englober ça et le rendre compatible Node, Bun, etc. Donc, mais ouais, c'est un gros travail, mais ouais, c'est toujours aussi propre quoi, ce qu'ils font.
Ouais, après, tout l'écosystème NGS, pour les personnes qui font, pour toutes les personnes qui font du JavaScript, franchement, c'est un caviar. Ils ont pris toutes les fonctionnalités, ils les ont toutes découpées dans des packages open source. Franchement, c'est ouf.
Ce qui est fou, c'est qu'on entend, finalement, on les voit pas beaucoup au devant de la scène. Mais le travail qu'ils font
une petite
est
équipe.
Énorme et fantastique, en fait.
C'est une petite équipe, mais le boulot qu'ils abattent, c'est monstrueux. C'est monstrueux.
Ouais, ouais.
Non, vraiment très, 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 très fort. Donc, top. En tout cas, nous, on gardera l'œil sur Nuxt 4, H3 et tout cet écosystème, parce que de manière personnelle, moi je suis impliqué, je suis fervent utilisateur au quotidien de toutes ces utilisations. Donc ouais, premier fan et premier utilisateur, clairement. Allez, on passe sur cette nouvelle version aussi majeure de Cursor. Donc Cursor, l'IDE surboosté avec de l'IA, qui vient en fait avec des MCP un petit peu plus faciles à installer, en mode one-click install. On ne peut pas dire que c'était compliqué avant, mais là, c'est encore plus simple. Et qui vient aussi avec plein d'autres fonctionnalités, dont des agents qui vont exécuter en background les gens qui viennent de Jupyter Notebook. Ça va être beaucoup plus simple aussi. Toi, tu n'utilises pas Cursor ?
Non. Non, j'ai jamais trop accroché. J'arrive pas. Okay. Désolé. J'avais testé Windsurf, j'ai testé. Comment il s'appelle ? J'ai oublié le nom. Celui qui était Z, aussi, qui est écrit en Rust et qui est ultra rapide. Là, je suis repassé sur VS Code avec Copilot, qui marche très, très bien. Mais Cursor, je n'arrive pas à accrocher. Ouais. Je sais pas. Après, c'est ma machine n'est peut-être pas assez puissante pour le faire tourner aussi. Mais...
ouais, je sais pas.
Mais, quand tu dis One Click MCP Install, c'est, les MCP, ils viennent de où, en fait ? Ils viennent d'un repo c'est quoi ? Ou c'est toi, tu mets une URL et puis,
Ouais. En fait, tu vois, sur VS Code, parfois, en fait, tu as les extensions. En fait, ça va t'envoyer sur le store. Le store va te renvoyer sur ton... Et il faut que tu installes ton extension dans ton VS Code. Là, en fait, c'est exactement le même concept, sauf que c'est pour un MCP. Donc, on est complètement d'accord que ça ne va pas changer le fait que si tu installes un MCP tout pourri... qui vient te leaker des infos, ça, ça ne va rien changer. Par contre, l'installation, le fait que ça soit auto-installé, ça te met en fait toutes tes configs déjà un peu propres, quoi. Donc, okay. C'est quand même... C'est vraiment sympa et ça facilite l'adoption en fait de tous ces modes MCP, clairement.
Okay, okay.
Et tu as un moyen de faire des bugs des code review en fait de manière plus ou moins natif mais et donc ça c'est un truc qui est plutôt sympa d'avoir quelqu'un ou un assistant en fait qui te dit ouais là
OK. D'accord. Mais attends, toi, ça fait un petit moment que tu l'utilises. Là. Donc, tu es...
Non, ça Qu'est-ce fait pas que... un petit longtemps. Ça fait pas longtemps. J'ai fait mon switch. Pour moi, il me faut encore du temps pour trouver mes repères et intégrer dans ma routine. Par contre, il y a un MCP que j'utilise quasiment tous les jours qui est vraiment, vraiment bien. Mais on en parle à la fin de l'épisode.
Ouais, ok, ça marche.
La suite.
Alors,
on parlait de MCP tout à l'heure, mais potentiellement, on peut aussi installer un peu n'importe quoi. Et donc, en termes de sécurité, grosse mise à jour potentielle en fait sur les NPM packages en fait qui vont installer. Mais le but, c'est d'aller hacker Cursor, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Il y a eu des packages qui ont été vérolés. Donc, tu les installais dans ton projet et ils ciblaient les utilisateurs de Cursor. Il allait modifier le main.js. Il désactivait les updates de Cursor et il prenait la main dessus, en fait. Et du coup, il récupérait des choses confidentielles, etc. Donc, c'était assez. Donc, ils les ont vite détectés, heureusement, et modifiés. Mais c'était, tu vois, comme quoi c'était hyper ciblé sur Cursor pour pouvoir récupérer des infos. Donc voilà, toujours faire attention au package NPM, c'est, c'est important.
Après, tes packages, mais là en fait, on atteint un niveau de complexité qui est vraiment impressionnant et limite beau quoi. C'est dans la mesure où il y a c'est un billard. Avant c'était un billard à deux bandes, maintenant c'est trois bandes, maintenant il y a quatre ou cinq bandes et c'est ouf quoi. C'est un package que tu vas installer dans un contexte de Cursor qui va aller récupérer les infos et tout. Non, c'est très, très bon. Après, best practice, on n'installe pas des packages comme ça, on n'installe pas des MCP comme ça. Et déjà, si on reste sur ces best practice, déjà, on vient supprimer beaucoup.
Disons que Cursor a tellement de pouvoir, en fait, capable de tellement de choses. C'est vrai qu'après, si tu arrives à mettre la main dessus, tu peux accéder à pas mal de choses. C'est ça qui est intéressant. Après, pour tester les packages NPM, tout ça, il y a des outils hein, pour tester la sécurité, la performance, le poids, etc. Maintenant, il y a plein d'outils d'audit en ligne. C'est assez rapide et c'est vraiment pratique avant d'utiliser un package de vérifier s'il n'y a pas de problème, etc.
Ah, il faudrait que tu nous mettes le lien. On en parlera dans un autre épisode, mais c'est super intéressant ça. Ouais, carrément.
Oui.
Carrément. Carrément. Allez, on déroule. Je ne connais pas cet univers Laravel. Par contre, quand je vois la qualité des outils qu'ils arrivent à déployer, c'est juste hallucinant. Et là, ils reviennent avec Nightwatch.
Ouais, Nightwatch, c'est un outil monitorer ton application Laravel. Donc, ça vient de sortir, hein, c'est tout neuf. Alors, évidemment, Laravel sort beaucoup de services comme ça, mais la plupart sont payants. C'est normal, parce que c'est de la qualité. Du coup, ça s'installe très rapidement. Tu mets le package Nightwatch sur ton application Laravel, tu mets l'ID, la clé. Et ensuite, tu as créé l'application de Nightwatch et il est de suite connecté. Donc, ça se fait très rapidement et tu as toutes les infos et tu peux détecter des anomalies de requêtes, etc. S'il y a des problèmes dans la base de données, s'il y a des requêtes qui mettent du temps, etc. Donc, tu as tout plein d'infos et tu peux détecter très rapidement des anomalies dans ton application.
Trop bien.
Et il y a un free tier qui est assez généreux. Donc, on peut même tester.
Tu as quand même...
il y a quand même un free tier. Ouais, à 200 requêtes, tu vois, incluses, 14 jours.
200 000.
200 000, ouais, pardon.
200 000, c'est 200 000, c'est énorme.
14 jours de rétention de data, etc. Donc, tu as quand même de quoi faire, de quoi tester. Et puis après, si tu as besoin de plus, c'est 20$. Mais franchement, qualité de l'outil. Et puis, ça s'installe en 2 secondes. Donc,
Ouais.
Et t'as tout les queries, les requêtes, les queues de jobs, tout ça. Enfin, tout.
Ouais, c'est top. Vraiment très
vraiment nickel quoi.
Ouais. Et toujours propre, toujours tout bon design, ouais. Efficient, pas de bling bling, straight to the point. Non, très très bon, très très bon. Comme tout l'écosystème. Alors après, est-ce qu'ils sont rattachés à Laravel ou c'est une boîte à part ou c'est vraiment incubé dans la société Laravel quoi?
Ça dépend des outils. Celui-là, je sais pas trop, mais c'est souvent inclus. Souvent la société, enfin, qui développe Laravel. Je sais pas comment elle s'appelle.
Une sorte de fondation ou la boîte ça. Ok. Oui. Parce que là, c'est nightwatch.laravel.com. Donc c'est
un sous-domaine. Ouais, ça dépend les outils.
Je pense que c'est incubé chez eux, quoi. Très très bon. Très très bon. Ouais. Allez, toujours en incubation là, mais il y a une plateforme Plasformic. Je vais pas y arriver.
Plateformatique.
Plateformatique. Ouais, je sais pas lire. qui en fait est une société d'hébergement sur tout l'écosystème JS. Mais en fait c'est le mec qui écrit l'article là, qui s'appelle Matteo Colina peut-être qu'il fait encore partie du corps de Node. Sur la décision, en tout cas il a monté cette structure pour gérer en fait toute l'infrastructure des applications. Et là en fait il revient avec une proposition où c'est quoi, c'est du PHP dans du Node.
Ouais, c'est ça. C'est un truc assez bizarre.
Okay.
C'est la possibilité de faire tourner du PHP via Node, en fait. Donc, c'est assez étrange. Tu te demandes pourquoi, oui, d'accord. Et du coup, tu peux créer des connexions entre des projets PHP et des projets Node, faire des requêtes, faire tourner des fonctions PHP, faire tourner du code PHP. Et là, à la fin de l'article, en fait, il fait carrément tourner sur du Node un Next en front et un WordPress en back, en headless. Voilà, sur une instance Node. Il y a tout l'exemple et tout ça, il explique tout. Donc, apparemment, ça tourne sur du Rust, PHP Node.
Ok.
Et ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne. Tu peux faire tourner du PHP via Node. Tu appelles des trucs, des fonctions, etc.
Après, j'ai du mal, mais peut-être que je manque de recul, mais je vois difficilement l'intérêt. Ou c'est quoi? C'est de centraliser l'hébergement, de tout mettre chez un hébergeur pour éviter d'avoir deux infrastructures différentes.
Là, c'est pas du tout lié à l'hébergement. C'est vraiment là, c'est un projet open source. Hein, donc, normalement, donc tu fais tourner où tu veux. D'ailleurs, tu peux le projet d'exemple avec WordPress, là, tu peux le cloner et puis le faire tourner sur ta machine si tu veux en Docker.
Le forker.
Donc, ça fonctionne partout. Ouais, l'intérêt, bah, ils expliquent que ça peut être pour un projet que tu migres, qui est à moitié migré, ou tu as encore des choses chez PHP ou des choses comme ça. Honnêtement, c'est, ouais, l'exemple d'utilisation, je ne l'ai pas, mais il faut trouver.
Ouais.
Mais c'est assez étonnant quand même d'arriver à faire tourner ça, quoi.
Après, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils arrivent à, en fait, sans faire de la virtualisation, parce que sinon, une virtualisation, c'est une machine, et donc avec deux univers différents. Là, pour le coup, grâce à Rust, si j'ai bien compris, ils arrivent en fait à extrapoler deux environnements sur une seule et même machine, deux environnements d'exécution de code qui sont bien distincts. Je pense à Node et à PHP, et pour le coup, ils arrivent à le faire tourner sur une seule et même machine. Donc, oui, ce qui peut en fait réduire les coûts et les infrastructures et la maintenance de différentes machines, ce qui veut dire aussi toutes les communications entre ces machines, tout. Non, non, ok, intéressant technologiquement. Après, je vois pas
Surprenant.
tout de suite le cas d'usage, mais pourquoi pas?
Ouais, c'est clair. Non, non, c'est assez surprenant. Ouais. J'aurais jamais cru que ce serait possible et pourquoi, enfin, quelqu'un le ferait, mais voilà, ça fonctionne en tout
Nice,
cas.
nice. On reste dans l'écosystème PHP avec un acteur majeur qui est PrestaShop. Toutes les personnes ou les qui bossent en agence ou même sans agence, mais qui gèrent en fait du e-commerce sont sans doute sous PrestaShop ou en tout cas connaissent cet écosystème. Il est sorti en version 9. Grosse mise à jour ou suite logique?
Non, non, grosse mise à jour, il y a des évolutions, bah, tout ce qui est cœur, Symfony, tout ça, montée de version, etc. Et PHP 8, tout ça, donc support de PHP 8.1. Et surtout, il y a un nouvel système d'API admin.
Ok.
Donc pas encore, malheureusement, d'API headless.
Headless. Ah ouais.
Pour le coup,
Ok.
pas encore, mais peut-être ça viendra pour la version 10. Mais en tout cas, ils ont fait toute une nouvelle API admin qui marche sur. J'ai oublié le nom. Comment ça s'appelle
API plateforme.
API plateforme, ouais, c'est ça. Donc c'est tout basé sur API plateforme qui fonctionne très très bien avec Symfony. Donc du coup, toute l'admin maintenant a été repensée, redesignée et fonctionne avec cette API. Donc voilà, et donc du coup tu peux connecter via cette nouvelle API des CRM externes, etc., plein d'outils plus facilement. Tu vois, t'as toutes les routes qui sont disponibles, etc. Donc grosse grosse évolution au niveau de l'admin API qui offre beaucoup de possibilités pour connecter avec plein d'outils, etc.
Ouais.
Et c'est propre, quoi. C'est sur une voilà, c'est un standard, c'est plateforme API, c'est clean et tu peux l'étendre en plus. Donc voilà. C'est à ce niveau-là qu'il y a vraiment une grosse évolution sur la version 9.
Ok, top. Et je vois, ils ont mis aussi du support pour des formats
Ouais.
natifs. Voilà.
Tout le monde le fait, ça, ouais. WebP, maintenant, c'est le minimum. Hein. C'est
Ça
quasiment
rentre
tout
dans les standards, donc ils se mettent à jour aussi sur les standards. Ça parle de SEO aussi pour faire de la redirection et des choses comme ça. Ok,
Ouais.
ok, ok. Allez,
Allez, allez, go.
on bascule chez Apple qui a sorti, qui a fait sa WWDC, donc la
Yes.
conférence vraiment orientée développeurs. On va pas parler des annonces design qu'ils ont fait sur les nouvelles, l'uniformisation de iOS avec macOS et tout ça. Ça
Bah, qu'est-ce
passe.
qu'on pense, toi? Ah, si, on peut en parler.
Alors, moi, je pense que
Alors, t'es fan ou pas?
c'est. Je suis pas fan du tout et je trouve que en tant que développeur avoir l'espèce de liquide glace machin, franchement c'est useless total et en fait quand je vois à côté que les mecs de chez Google ou de chez Amazon ou tous les autres ou OpenAI ils boostent des modèles, des fonctionnalités, des trucs de fou. Et Apple, en fait, eux, ils sortent le liquide glace. Ouais, ça me rend triste, quoi. Ça me rend triste. Donc, non, je trouve que ça fait déjà des années ça bouge pas trop, quoi. Et je parle pas de hardware, hein, je parle vraiment software. Ils sont très très mous, quoi. Ils ont dû attendre d'être le couteau sous la gorge avec cette histoire de Fortnite là, sur les paiements, sur les PWA, tout ça, sur les abus de position dominante, tout. Voilà, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais ça m'attriste. Mais le Apple 2025, c'est le Microsoft des années 90, quoi, où tout est verrouillé, tout est. C'est. Ok, je comprends que c'est du business, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais là, en fait, c'est. Okay. Non, je trouve ça triste. Je trouve ça très, très triste. Après, il y a des trucs sympas qui sortent et pour le coup, Conteneur en fait partie. donc ça, c'est plutôt bien, en fait. C'est cool, mais bon.
Ouais, pour les utilisateurs de Mac, ouais, c'est pas mal. Mais malheureusement, c'est pas encore complet. Donc c'est. Alors, perso, je l'ai installé sur l'ordi. Il faut la version 15 de macOS, donc j'ai dû faire l'upgrade parce que j'étais encore à la 14. Je traîne beaucoup pour faire les upgrades. Et donc je l'ai installé. Et là, déception. Alors ça se lance, c'est facile, t'as la ligne de commande, tout ça. Déception parce que le Docker Compose n'est pas pris en charge, en fait. Donc du coup, c'est pas trop utilisable.
Ouais, donc c'est que sur du mono package, quoi. Enfin,
pour l'instant, c'est que tu peux lancer via un Dockerfile, mais du Compose, ce qu'on utilise tous, quoi. On utilise tous Docker Compose, mais en fait, tu peux pas. Donc, je vois pas comment c'est utilisable sans Docker Compose.
Ouais.
Mis à part pour lancer un petit Docker, quoi.
C'est un peu light. C'est un bon pas.
Oui, c'est un bon début en tout cas. C'est un bon début.
Après, c'est natif, mais oui, on est très loin de l'écosystème déjà en place sur Docker avec Docker Compose et tout l'écosystème qu'il y a pour builder les images et tout ça. Donc, c'est bien.
À suivre ouais, s'il y a de l'évolution derrière et que voilà, il y a une prise en charge de Docker Compose et là ça va tout changer. Après, évidemment, on parle de Mac, hein, uniquement là, ça fonctionne sur Mac parce que ceux qui ont des Mac qui nous écoutent savent à quel point c'est compliqué Docker Desktop sur Mac. D'ailleurs, ça c'est pas utilisable.
OrpStack.
Oui, voilà, c'est OrpStack. On utilise tous OrpStack maintenant parce que Docker Desktop il est inutilisable en fait, il prend trop de RAM, tout ça, etc. Donc, Conteneur est une bonne solution pour l'instant. Enfin, quand ça sera abouti, ça sera peut-être un remplacement d'OrpStack et qui fonctionnera beaucoup mieux sur Mac. Quoi.
Pour l'instant, je pense qu'on en est encore, un peu loin. Hein. on a encore de la marge. Donc,
après, c'est tout neuf, voilà, le Conteneur. Hein, ça vient de sortir. Donc, tu vois, c'est la 0.1.0. Donc,
ouais. C'est
dans quelques versions, peut-être qu'on aura Compose.
Exactement.
À suivre. Donc, il faut rester branché dessus et suivre.
On parle de nouveautés. C'est tout nouveau.
Ouais.
Pareil, on sait que les utilisateurs d'Arc sur le navigateur Arc n'est plus. C'est fini. Ils arrêtent le développement. On s'est dit, mais pourquoi Qu'est-ce qu'ils font? Et en fait, ils sont revenus avec un nouveau navigateur qui s'appelle DIA.
Ouais. Ouais, alors après l'abandon des utilisateurs d'Arc, mais vraiment en plus assumé, quoi, tu vois.
Ouais, donc, c'est annoncé vraiment.
Ouais, ils ont dit que c'était trop. En fait, ils ont dit que Arc est trop différenciant par rapport aux autres navigateurs, du coup, on n'arrivera jamais à avoir une.
À rentrer sur le marché, quoi.
Ouais. Voilà, rentrer sur le marché, il est trop différent et voilà. Presque ils ont fait une erreur. Bon, bref, ok, d'accord. Quand même, ils ont arrêté le développement total et la maintenance depuis mai, je crois. Donc, c'est quand même pas rassurant pour les prochains produits. Et là, ils arrivent avec DIA. Donc, DIA qui est en version bêta, qui est uniquement accessible si tu as un compte Arc. Ça tombe bien, on en avait un.
Oui.
Donc, donc DIA, il est censé être la vision du futur du navigateur, en quelque sorte. Ce qui n'est pas... voilà, donc l'IA est intégrée dedans directement. Quand tu l'ouvres, tu as une box en fait, de chat. Soit tu lui poses une question, soit tu lui mets une URL et il va ouvrir un onglet comme Chrome, n'importe quoi. Voilà. Donc, tu es en mode chatbot ou en mode navigation.
Ok. Est-ce que c'est pas un peu une fusion entre du Perplexity et un navigateur classique, quoi ? C'est-à-dire, la première chose que tu ouvres, c'est non pas un onglet, mais c'est une chatbox, en fait, où tu vas soit taper ta recherche, soit ton URL, soit... tu vois, il y a une sorte de... Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu cet effet un peu Perplexity, quoi. Non ?
Bah ouais, tu vas lui poser une question. Si t'es en chatbot... Tu vas lui poser une question et après il va te répondre avec différents liens et tu vas pouvoir cliquer et du coup ça va ouvrir des onglets directement. Et ensuite, la force de DIA, c'est que tu vas pouvoir, via un panneau à droite du navigateur, donc un chatbot encore, interagir avec la fenêtre que tu as. Donc il rentre en contexte en fait. Ta fenêtre, donc ça peut être YouTube, n'importe quoi, celle qui est ouverte. Et là, tu vas pouvoir lui poser des questions sur contenu et il va pouvoir faire plein de choses, traduire, te résumer, plein de choses en fait. Voilà.
Okay.
Et tu peux aussi jouer, si tu as plusieurs onglets ouverts, par exemple, là, il donne l'exemple avec Airbnb où tu aurais quatre
onglets ouverts.
Bah, tu vas lui demander de faire un résumé sur ces quatre onglets des prix, tout ça dans un tableau, etc. Donc tu peux, en fait, interagir avec le contenu que tu as dans ton navigateur, en fait.
Ouais.
Donc en fait, c'est pas si mal, en fait, parce que, alors je sais pas si on peut définir que c'est le futur du navigateur, mais dans ce modèle-là,
les sites, c'est leur pari, quoi.
Voilà, les sites sont toujours là. On va toujours naviguer. Mais par contre, on interagit avec les sites et on lui demande des choses, voilà, résumés, etc. Donc, je ne sais pas. J'ai trouvé...
À tester.
Mais moi, voilà, pour l'instant, je l'utilise beaucoup pour résumer des articles, etc. Donc, c'est pratique. J'ai aussi... il est capable de... Alors, un truc pas mal, c'est qu'il est capable de résumer aussi des vidéos YouTube. Tu as une vidéo YouTube ouverte. Tu lui demandes de résumer ou tu lui demandes, par exemple, j'ai fait un test avec de lui faire le sommaire en timestamp de la vidéo et
le
il est capable de faire aussi,
ouais. Tu vois,
le chapitrage. Donc, il interagit avec plus que du texte, tu vois, il est capable de lire une vidéo, etc. Donc,
okay.
C'est pas mal. Mais voilà, c'est la première version.
C'est la fusion de l'assistant et du navigateur. Intéressant. Intéressant.
Bah, disons que ils avaient fait beaucoup de buzz. Alors, d'un côté, c'est un peu déceptif parce que tu attendais un truc vraiment game changer, tu vois.
Ouais.
Et puis finalement, on se retrouve avec un truc où Chrome, pareil, ils ont intégré Gemini, Edge, il y a.
Mais voilà, tout ça, en fait, tu peux le faire déjà avec des extensions que tu installes.
Voilà.
Sauf que là, leur paradigme à eux, c'est que tu n'installes pas des extensions, c'est natif, intégré, et l'intégration est faite de manière hyper fluide, quoi. Ça se tient. Après, je pense que c'est moins geek. C'est plus Monsieur Lambda.
Oui.
Et donc, pour une pénétration de marché, pour être, comme dirait l'Éric, un mass market, quoi, vraiment avoir une audience la plus large, ouais, c'est peut-être un move intéressant à voir.
Non, c'est intéressant, il faut le tester. Alors, si vous avez un compte Arc, c'est intéressant de le tester pour se faire une idée, tout ça, parce que c'est... C'est le concept est intéressant et je pense que ça va. Alors, s'ils font comme pour Arc, où ils écoutent les utilisateurs et ils font beaucoup d'évolutions, on peut s'attendre à ce que DIA évolue très vite avec des fonctionnalités qui vont être ajoutées au fur et à mesure. En tout cas, s'ils suivent le même développement.
Ouais.
Quoi.
Ouais, bien sûr. Yes.
Voilà.
Allez, on essaye de sortir un tout petit peu de ces dépendances, on va dire, américaines ou aux géants de la tech américaine. Et on propose là un site qui nous propose en tout cas une sorte d'alternative à tous les gros agents américains. En tout cas, c'est toutes les solutions qui font un peu la même chose, mais basées en Europe, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, c'est tous les services, il y a plein de trucs, mais qui sont pas américains, encore une fois. Bah, c'est un peu comme le premier truc qu'on avait présenté. Donc, c'est toutes les alternatives européennes et on peut voir, alors il en manque quand même, mais on peut voir qu'il y en a beaucoup et il y a beaucoup de bons produits en Europe, en fait.
Ils ont mis quand même Quant, quoi.
Ouais, bon. Bon, il a été financé à coup de,
de millions. Donc bon. Je troll.
Comme tu peux.
Mais ouais, c'est. Enfin bon, on va pas revenir là-dessus. Non, mais plutôt intéressant si, en tout cas, je pense surtout pour des clients qui et des clients le sont de plus en plus, en fait, cherchent à avoir une sorte de souveraineté et de dire ok, moi je veux pas, voilà, pour raison éthique, en fait, ne souhaite pas en fait s'attacher en tout cas à des solutions américaines trop fortes. Et donc, s'ils peuvent au moins avoir une alternative, c'est quand même super intéressant. Mais... carrément.
Ouais. Et il y a beaucoup de bons produits. Hein. Si tu vas dans... tu peux trier par catégorie, tu verras. Et franchement, il y a énormément de bons produits américains qui viennent de Lituanie, européens, pardon, qui viennent de Lituanie, tout ça, de Norvège et tout. Enfin, c'est en fait. Et ce directory va permet aussi de découvrir en fait des services qu'on connaissait pas. C'est ça qui est intéressant aussi.
C'est exactement là où je voulais venir, c'est que potentiellement en fait. On ne connaît pas ces produits-là et peut-être qu'on n'est pas spécialement à cette fibre, on va dire, européenne, mais on peut tout simplement aussi s'en servir pour découvrir des produits qu'on ne connaissait pas et qui nous permettent de faire des trucs super, super sympas, quoi. Donc,
parce que c'est vrai que les Américains ont souvent une force marketing assez impressionnante et on entend, voilà, ils se mettent beaucoup en avant, mais les Européens ont peut-être moins de marketing, tout ça, moins d'argent. Donc, ça permet de découvrir quoi, des bons produits aussi.
Ouais, parce qu'ils sont régulés. Ouais, je déconne. Je troll. Allez, autre produit super sympa, pour le coup, américain, mais Upstash.
Bravo.
On connaît Upstash, en fait, sur leur... vraiment, leur produit phare, en fait, ça avait été c'est toujours le serveur, le Redis en mode serverless, donc compatible Edge et tout ça. Et là, en fait, ils reviennent avec une nouvelle fonctionnalité qui est le search, parce que tout simplement, ils ont déployé une solution de base de données vectorielle. Et donc, nativement, en fait, ils ont, on va dire, par... suite logique, ils ont intégré en fait un service de recherche, donc où on va pouvoir faire de la recherche full text et vectorielle, donc c'est utiliser tout le champ sémantique, et c'est clairement une alternative à Melisesearch ou à Algolia. Par contre, on est beaucoup moins poussé sur les fonctionnalités. Et sur voilà, il y a pas d'analytics, il y a pas possibilité de faire une gestion et un affinement de la recherche ultra précis comme on peut faire sur Melisesearch. Néanmoins, c'est facilement installable, c'est ultra rapide, c'est un service hébergé. Franchement, c'est top, hein.
Ouais, c'est pas mal, c'est simple à utiliser, c'est à mon avis très rapide au niveau des requêtes, tout ça. Puis ouais, pareil, c'est pas au niveau tarif, ça reste raisonnable.
Ouais. Donc, après leur politique tarifaire est toujours, il y a toujours un free tier qui est assez généreux et après en fait c'est toujours à la demande. Donc en fait, moi je trouve ce système-là plutôt équitable dans la mesure où ton service n'est pas utilisé, tu vas payer que dalle. Et si ton service est beaucoup utilisé, tu vas commencer à payer quoi. Et je trouve ça plutôt pas mal. Et au moins t'as pas à gérer toute cette scalabilité tout. Et quand tu commences à payer des factures vraiment vraiment onéreuses, c'est que tu as un bon problème et potentiellement, là, tu peux soit faire un switch de produit, soit passer sur un autre plan pro, voilà. Donc, top. Par contre, plusieurs bases de données, plusieurs index, des API déjà tout à côté, pré-codés, de la recherche sémantique, du full text, top, quoi. Vraiment petit service de search à mettre en place.
Upstash, ouais. C'est un service qui marche bien, qui est facile à utiliser. On l'utilise pour le site du podcast.
Pour une DB Redis,
c'est hyper simple à utiliser, en fait. Ouais, ouais. C'est hyper simple. Quoi. ça marche super bien. Ça, enfin voilà, il y a rien
c'est
à faire.
Fiable.
En fait.
Non, non. Et c'est fiable. C'est ouais. Hyper facile à mettre en place, quoi. Donc c'est plutôt intéressant. Allez, autre système fiable. On ne sait pas.
on ne sait pas
cas,
encore.
rapide. Ça, c'est sûr. On connaît tous ESLint avec l'enfer du lintage et des conflits. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs le lintage, mais l'exécution de lint dans le code pour formater en fait selon des règles. Tout l'écosystème Void Zero qui est porté en fait par Evan Yu, le créateur de Vite, a monté une structure qui s'appelle Void Zero, qui a pour but en fait d'uniformiser tout l'écosystème de développement en JS. Et un produit, en tout cas, oui, pour Linté, qui se veut le concurrent de ESLint, s'appelle OXLint. Et sur le papier, il est ultra, ultra, ultra rapide. Parce que. Alors, pour
c'est
le coup,
rust.
Moi, ouais, c'est fait en Rust. Et donc, mais pour le coup, moi, je l'ai installé sur mon repo.
Ah ouais, t'as essayé ?
Ouais.
Okay.
C'est très rapide. C'est vraiment.
Ouais, il y a zéro config aussi de ce que
très,
j'ai lu.
Très rapide. Et en fait, moi, c'est ça qui m'a fait faire le switch. En fait, c'est le zéro config. Pour le coup, voilà, il part des conventions. Après, moi, je veux respecter les conventions, on va dire natives. J'ai pas des règles de ESLint particulières. Voilà, moi je me fie aux conventions et ça me va bien et ça marche plutôt bien comme ça. Et là pour le coup c'est ultra rapide et j'ai linté ma codebase en 2-2 quoi. Mais vraiment, plutôt bien. Moi c'est le genre d'outil, tu vois, et j'installe et je l'oublie quoi. Je veux plus m'en occuper.
C'est le but, hein, je pense.
Ouais,
c'est le but, je pense qu'il veut simplifier, que tu n'as rien à configurer, que tu n'es pas 200 000 packages ESLint- je ne sais pas quelle règle. Voilà, simplifier aussi le package.json parce qu'on a, dans certains projets, les packages de dev, c'est énorme, quoi, rien que pour ESLint la plupart du temps.
Oui.
Donc si ça simplifie le package, si on a moins de choses à configurer, et en plus il est 50 fois à 100 fois plus rapide que ESLint, c'est ce qu'ils annoncent.
Ouais.
c'est top.
Bah ouais, carrément, carrément.
Donc j'ai pas eu le temps de le tester, mais je vais essayer de le tester dès que je peux sur un projet.
Tu vois, j'ai été prêt à passer sur Biome et au final.
Je suis sur Biome.
Ouais. Et pour le coup, j'avais pas fait le switch, et là je dis ok, bah vas-y, là je le fais. C'est inodore, incolore, fluide rapide. Allez, bim, terminé.
Donc, Biome fait le linter et le formateur. Ce que ne fait pas, enfin, d'après ce que j'ai lu, OXLint pour l'instant.
Oui.
Après, peut-être qu'il y aura un autre truc en plus, mais c'est ça l'avantage de Biome, c'est que tu as les deux. Du coup, ça te remplace Prettier et ESLint. Donc,
oui.
Et il est ultra rapide aussi, Biome. Donc,
ça va arriver, ça va arriver.
Ouais, je pense, ouais. Ouais.
Allez, petit article hyper intéressant pour le coup qui nous explique qu'on utilise Cursor, mais plutôt, en fait, on ne sait pas l'utiliser. Et je pense que c'est un article qui, moi, m'a aidé en fait à mieux appréhender l'outil. Parce que c'est sûr que quand on arrive pour la première fois sur Cursor, ok, on joue, on va utiliser le chatbot, on va faire un des agents. La qualité est pas si bonne que ça. Nativement, voilà, il y a des choses un peu pas en mode hallucination, mais pas loin. Et donc là, c'est un super article qui nous explique comment paramétrer, comment structurer en fait ces règles dans Cursor. Pour justement en fait minimiser ces hallucinations et en fait orienter pour le projet spécifique sur lequel on est en train de bosser, même si Cursor en fait vient scanner la codebase, donc en fait il va augmenter son contexte. Néanmoins, si on lui donne des infos de manière explicite, il sera d'autant plus précis. Et en fait, c'est un article assez complet qui nous explique justement comment, là par exemple, ce qu'on voit à l'image, c'est quelles sont les règles de convention pour écrire des commits, parce qu'on peut facilement cliquer sur le bouton là, pour faire les messages de commit. Parfois c'est pertinent, parfois ça ne l'est pas toujours. Néanmoins, si on lui donne des règles, il va toujours respecter en fait les conventions commit un peu standard avec les add, fix, refactor, test, doc, style, perf, voilà, ou ce genre de préfixe sur le nom du commit qui en fait va respecter la convention. Et donc le fait de venir surcharger avec ces rules, en fait ces règles, on vient gagner vraiment en qualité de sortie. C'est un article assez long, assez poussé. Je pense que pour les personnes qui utilisent Cursor, il y a grande chance que vous n'utilisiez pas tout le potentiel de Cursor parce que c'est quand même outil très puissant, mais il faut quand même dompter un peu la machine et lui donner des règles, sinon ça part vite dans tous les sens.
Ouais, ok. Toi, tu penses que quelqu'un qui se met sur Cursor, il faut combien de temps d'apprentissage pour commencer à l'utiliser correctement ? Une semaine, deux semaines ?
Ouais, moi, je sais pas. Moi, je dirais que de toute façon, tu vas tout le temps le faire évoluer et donc tu vas tout le temps rechanger ta manière de faire.
Ouais.
Par contre, le vrai problème, à mon sens, c'est d'accepter de changer ton process de travail. Et c'est là où c'est super dur.
C'est parce le plus dur.
Mais oui,
bien l'habitude.
Sûr. Ouais. Ouais, bien sûr. Et oui. Et donc, c'est là où c'est plus difficile. Par contre, très vite, tu vas choper des nouveaux réflexes ou le fait d'avoir mis toutes ces règles, en fait, les autosuggestions de tab sont beaucoup plus précis et vont prendre en compte en fait la convention de nommage que tu as donnée ou des choses comme ça. Et donc c'est beaucoup plus agréable parce que il y a moins de trucs, enfin il y a pas des hallucinations, mais il y a pas l'effet non mais là tu me dis n'importe quoi mec, là tu me fais de la merde, tu vois. Et il y a beaucoup moins cet effet what the fuck quoi. Et donc ça c'est agréable. Par contre, ce qui est sûr, c'est que oui, il faut venir surcharger ton copilote, tes règles, faut lui donner de la matière. Il faut lui donner un contexte et on va reparler.
Ça marche pas tout seul.
Non,
ça marche pas tout seul. Il faut le régler, il faut le configurer.
Out of the box, ça marche très bien sur des pages HTML ou des choses comme ça. Mais dès que tu commences à avoir ton application un petit peu plus sérieuse avec sur des applis front avec des stores, des composables où ton code est splitté un peu partout. Ouais, là, ça va être plus dur d'avoir de la pertinence, d'où le fait de centraliser les données et de lui donner de la matière pour que lui, en fait, il respecte ses règles. Et là, en fait, la qualité intrinsèque de ce qui va sortir sera beaucoup, beaucoup, beaucoup meilleure. Pour répondre à ta question de manière plus rapidement, combien de temps, ça va dépendre de toi. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que tu te formes. Et donc, en fait, quelle est ta capacité à te former à ce nouvel outil pour en tirer vraiment le 100% quoi.
Okay.
En clair.
Ce qui est sûr, c'est que si tu veux passer sur Cursor, il faut prendre du temps pour se former et l'utiliser correctement.
Voilà, évidemment.
C'est obligatoire.
Évidemment. Ouais. Sinon, tu n'es que sur un fork de VS Code. Le fork de VS Code, il est pour moi intéressant parce que tu vas pas être déboussolé en fait. Tu es dans ton univers VS Code. Donc en fait, c'est facile, mais il y a juste le côté agent, tu vois, qui va être intéressant où tu vas pouvoir surcharger toutes ces infos-là et donc ça c'est intéressant. Je pense que le fork est limiter la friction du nouvel IDE, on l'a de manière native, donc c'est facile. Par contre, on a pour profiter de de tous ces agents et de toutes ces règles. Ouais, il faut se former un petit peu. Et je pense que justement, cet article-là nous montre bien en fait la possibilité de mieux régler tout ça, quoi. Mais en fin de vidéo ou en fin d'épisode, on va présenter un outil qui nous permet de supprimer beaucoup d'hallucinations. Allez, on déroule. Ils nous ont menti. Ils nous ont menti sur les super modèles avec tous les benchmarks.
Non, pas celle-là. T'es en avance, là. On n'est pas encore sur celui-là.
Ok. Ah, merde.
Là, c'est Fred Cavazza qui parle de VivaTech, qui a eu lieu la semaine dernière. Et donc, il fait un petit constat, voilà, de la déconnexion entre l'entreprise, le buzz qu'il y a autour de l'IA générative et de ce qu'on nous vend, et de la réalité sur le terrain, en fait. Donc, il explique que dans VivaTech, c'était l'IA à outrance. Tout le monde essaie de vendre de l'IA, d'intégrer des chatbots, etc. Sauf qu'on n'en est pas encore là. Au niveau des entreprises, l'adoption est assez lente et les besoins sont pas vraiment... Enfin, il n'y a pas de réponse aux vrais problèmes. Donc, voilà ce qu'on nous... En gros, on est dans une période où beaucoup d'entreprises intègrent l'IA parce qu'il faut l'intégrer, mais c'est intégré d'une façon qui ne répond pas aux problématiques des entreprises. Donc, du coup... Voilà, on est plus dans un marketing plutôt que...
On pousse la techno, mais il n'y a pas de problème, quoi.
Disons que voilà, ça ne répond pas aux besoins. Donc, les entreprises, ouais, c'est cool, mais l'utilisation se fait lentement. L'adoption se fait très lentement dans les entreprises. Donc, on n'en est pas encore là. Donc, voilà, il y a une décorrélation entre l'offre et la demande, etc. Donc, c'est un peu un article qui revient là-dessus. Voilà, il explique que 40% des exposants proposaient des solutions avec de l'IA à VivaTech la semaine dernière. Donc voilà. Enfin, voilà donc, article intéressant. Fred Cavazza, je ne suis pas fan de tout ce qu'il écrit, mais celui-là, il est assez intéressant à lire. Voilà, c'est toujours intéressant pour un état des lieux sur un moment donné sur une techno. Quoi.
Ok.
Voilà.
Et état des lieux. complet. Moi, je pense que s'il n'y a pas de problème, pousser des solutions, ça ne marche pas. Enfin, je veux dire, c'est du sens commun. Et on a vraiment, nous, dans la tech, en plus, on a vraiment coutume de chercher des nouveautés. Et donc, parfois, en fait, on va trouver une énorme solution, sauf que le problème n'est pas assez réel, n'est pas assez douloureux pour justifier l'achat de cette solution-là. Et donc, c'est pour ça qu'il y a autant de startups qui meurent, c'est qu'ils essayent de pousser une solution, sauf que le problème n'est pas assez gros, n'est pas assez fort, et donc ça ne marche pas, tout simplement. Est-ce que l'IA générative peut-être, en fait, il manque encore de maturité l'offre, en fait, qui s'appuie sur l'IA n'est pas encore assez développée. Je m'explique. En fait, le client final, lui, il s'en fout que ça soit fait avec de l'IA ou pas. Il veut résoudre le problème. Et je pense que là, aujourd'hui, on essaye de pousser l'IA en disant « Ouais, c'est fait avec de l'IA, c'est top. » Mais ça ne résout pas le problème que j'ai. Et donc, celui qui va gagner un paquet de dollars, je pense, c'est celui qui arrive à solutionner le problème du client. Et s'il le fait avec de l'IA, c'est bien, parce qu'il pourra aller voir les investisseurs et il pourra lever du pognon parce qu'il utilise l'IA. Mais en fait, toujours le même délire. Hein, le client, il s'en fout que ça soit fait avec l'IA ou pas. Donc,
Alors moi je suis vraiment pour tu vois on critique beaucoup Apple en ce moment en disant qu'ils sont en retard sur l'IA tout ça, et moi je suis pas persuadé qu'ils soient tellement en retard et je suis fan de leur intégration de l'IA au niveau des outils du logiciel, parce qu'en fait ils font une intégration qui où tu te rends pas compte que c'est de l'IA. Par exemple, trier les photos, des choses comme ça. Ils ont déjà commencé à intégrer l'IA. On l'a déjà dans les iPhones, tout ça, et on s'en rend même pas compte. Et je pense que c'est ça la vraie utilisation de l'IA, c'est-à-dire que tu vas utiliser une application que tu utilises habituellement, et l'IA va t'assister, va te faire des choses en plus que ce que ça faisait avant. Ouais. Et c'est ça, en fait, la vraie utilisation de l'IA. C'est pas un chatbot, tu vas poser des questions. Oui, ça, c'est cool. Mais alors nous, on est dans la tech, et on l'utilise au quotidien, surtout les devs, on a beaucoup d'outils développés à notre destination. Mais si tu fais un petit sondage autour de toi, des gens lambda, tu verras que la plupart n'utilisent pas ni ChatGPT, ni voilà, du tout au quotidien.
Ouais, clairement, donc, clairement.
Nous, on est souvent déconnectés un peu du monde normal et il faut se méfier de ça aussi, beaucoup. Donc, ouais, je pense qu'Apple Apple est dans le juste au niveau d'intégration de l'IA et j'y crois plutôt à ça dans l'avenir, en fait, une intégration transparente. Voilà.
Inodore, incolore. Et en fait, quand tu cliques sur le bouton, c'est juste une fonctionnalité. Mais le mass market, intéressant. Ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Mais c'est vrai que nous, on est peut-être trop la tête dans le guidon et sur, sur la hype techno. Mais c'est vrai que l'approche, tout le monde, tous les journalistes, en tout cas tous les mecs qui les gratteurs de buzz peut-être, disent que Apple a beaucoup de retard sur l'IA, mais peut-être sur l'intégration des fonctionnalités IA, peut-être ils sont en avance en fait. Peut-être.
Ouais. Et surtout, tu sais, quelque chose que j'aime beaucoup là, je sais pas si t'as vu la keynote, la présentation là de. Ce qui est génial sur l'iPhone, ce qui est vendu, c'est que l'IA va tourner en local sur l'iPhone. Il n'y aura pas d'appel réseau.
Ça, c'est,
et c'est ça qui est, voilà, ça, c'est contrairement
top.
Aux autres. Tu vois.
Ouais.
Donc tout va rester sur l'iPhone et ça va tourner sur les puces Apple, voilà, qui sont performantes pour ça.
Ouais.
Et c'est peut-être pour ça aussi que ça prend du temps, parce que faire tourner une IA, un modèle en local sur un iPhone, c'est pas si simple, sans que ça bouffe toute la batterie, tout ça.
Ouais. Après, on revient sur un peu ce qu'on avait déjà discuté sur certains épisodes, c'est le fait d'avoir de plus en plus de modèles, mais des modèles ultra, ultra dédiés, spécifiques, qui seront tellement petits qu'ils pourront tourner en local, mais ils feront des tâches ultra spécifiques, quoi. Mais il n'y aura pas un super modèle qui va tout faire et qui sera dans le cloud. Parce qu'après, il y a un business model en fait, où tu vends des tokens aussi. Tu vois. Donc, pousser cette solution décentralisée, elle a aussi son business model. Tu vois. Donc là, pour le coup, ça va s'affronter. Quoi. Et c'est deux approches de l'IA, deux approches...
Ouais, on a deux visions différentes entre Google et Apple. Tu vois, donc, totalement. C'est intéressant à suivre. Ouais.
On centralise tout ou pas quoi. Et on, donc non, intéressant. Néanmoins, les Google, les OpenAI et tout ça, pour le coup, ils nous ont menti, non?
Ouais. Et alors une vidéo. Alors c'est une, je sais plus comment il s'appelle. Il fait des vidéos assez techniques sur l'IA et les modèles, etc. Il t'explique. Alors si vous êtes intéressé vraiment par le côté technique des modèles. Il fait, je ne sais plus tous les combien, il fait une vidéo, c'est Artificial Code, la chaîne. Et donc, dans cette vidéo, au début de la vidéo, il explique qu'il y a eu de la triche, en fait, sur les benchmarks au niveau des modèles open source, tout simplement. Et Zuckerberg a avoué dans un interview qu'il l'avait fait. Et comment ils ont fait? Tout simplement, au niveau du benchmark, ils ont mis plusieurs modèles en privé. Ils les ont entraînés sur les données du benchmark. Ils ont écarté tous les modèles qui étaient moins bons, ils ont gardé que les bons, et ensuite, voilà, ils ont publié le modèle qui était entraîné, etc. Et donc, ça fait un meilleur classement. Et donc, voilà, ils ont triché sur les benchmarks pour avoir des meilleurs classements et pour avoir voilà, plus de vues, plus d'utilisation et plus de levée de fonds, certainement. Donc, voilà.
Ouais, ils ont cheaté. Bon, en même temps, ils ont, enfin, je veux dire, ça fait partie du jeu, il y a des benchmarks, les règles sont écrites, donc, tu vois, tu fais évoluer ton modèle. Voilà, on se rappelle du Dieselgate avec les Volkswagen.
C'est
exactement pareil. C'est OK, dans le contexte d'évaluation du benchmark, les stats sont bonnes. Après, de là à dire que tous les benchmarks sont pipés et que tout est faux, c'est compliqué. Mais après, je pense que c'est des données. Après, c'est pas la messe non plus, quoi, je pense. Il faut savoir s'en détacher. Mais qui croire. Allez, encore plus bizarre, mais en tout cas ultra puissant, quelqu'un a utilisé des vidéos pour stocker en fait et utiliser des vidéos comme base de données vectorielle. C'est complètement ouf ce truc.
Ouais, c'est assez fou. Ouais. Ils utilisent des MP4 pour stocker donc toutes les données vectorielles et donc faire des requêtes, tout ça pour retrouver des informations et tout ça dans un MP4. Donc du coup, c'est un fichier que tu peux mettre en hors ligne, etc. Donc, alors, je n'ai pas testé hein, le truc. Il y a un repo GitHub qui est dispo, on peut tester facilement. Mais c'est assez fou, en fait, de se dire, bah, sa database, c'est le fichier MP4, quoi, en fait. Donc, pas forcément très, très lourd. Et tu vois, tu peux le mettre en offline, tu peux le mettre un service worker, tout ça, machin. Enfin, c'est juste... je trouve ça assez fou, en fait, d'avoir pensé à faire ça. Ouais. Un peu comme le Node PHP, en fait. Tu vois.
Et alors, moi, technologiquement, je trouve ça intéressant comment le mec, il a pu intégrer ça. Par contre, moi, ce que je vois, en fait, c'est potentiellement, en fait, un article où, en fait, ta page est intégrée dans ta vidéo. Et donc, en fait, dans ta vidéo, il y a toutes les infos que tu as besoin. Tu vois, il y a toutes les infos, quoi. Et donc, tu viens surcharger ta vidéo avec plein d'infos. Et ça, ça, c'est intéressant, quoi. Parce que je me dis, tu n'exposes que ta vidéo, mais au final, dans ta vidéo, il y a toutes les infos que tu as voulu. Mmh. Je sais pas, un bout de code, un snippet, du texte, des choses comme ça, quoi. Et donc, waouh, intéressant. Très, très intéressant. Après,
tu vois, il te dit des milliers de livres dans un seul fichier vidéo, tu vois, par exemple, il donne use case. Ouais, digital ouais. Library. Tu vois. Il y a plein d'exemples, mais c'est. Ouais, c'est. Franchement, j'ai vraiment envie de tester juste pour voir ce que ça donne. Le ouais. poids du MP4 au final, tout ça, pour voir ce que ça donne.
Et ce qu'il faudrait voir aussi, c'est est-ce que ta vidéo, en fait. Est-ce que elle est, t'es obligé de la lire ? Enfin, est-ce que tu peux la lire de manière nativement ? Est-ce que quand tu l'exportes et quand tu la compresses ou des choses comme ça, est-ce que tout est supprimé ? Enfin, tu vois, moi j'ai plein de questions techniques après. Ouais. Et là, il faut vraiment que je regarde. Mais ouais, je vois des cas d'usage intéressants.
C'est du Python, donc je vais mettre un petit peu au Python.
Ouais. Bah, en même temps, si tu fais, ouais, c'est obligé.
Bon, il y a peut-être une version JS qui va arriver, hein. On ne sait pas.
Ouais, à voir. Allez, petite version de Copilot qui vient s'agrémenter d'un agent qui nous permet en fait de faire des reviews de code, c'est ça ?
Non, c'est alors oui, alors oui, déjà il y a la nouveauté. Alors en ce moment j'ai Git Copilot qui me fait des reviews de PR et ça c'est super. Ça va faire une semaine que je l'ai et top, il me trouve des trucs, tout ça, machin. C'est du coup tu te retrouves. Alors ce que je disais, je crois que j'ai fait un message sur Twitter. C'est hyper pratique pour les mecs qui travaillent seuls, enfin les devs qui sont seuls sur un projet, etc. Parce que ça te fait des reviews. T'as quelqu'un qui te fait des reviews de tes PR. Donc, tu peux mettre en place un système de PR, tout ça, que tu vas valider, tout ça. Et donc, Copilot va te valider ta PR. Enfin, en tout cas, va te faire une review. Donc, ça, c'est pratique quand tu es tout seul. Mais ça, c'est autre chose. C'est carrément un agent qui tu vas lui assigner une issue dans GitHub et il va faire le code, ce que tu lui as demandé, et il va ouvrir une PR et après, tu valides, etc. Donc, c'est comme un petit développeur dans un coin qui te fait... Des fonctionnalités. Alors apparemment c'est que pour les petites fonctionnalités pour l'instant, il va pas faire des trucs trop compliqués, mais c'est un début d'avoir quelqu'un qui peut te gérer certaines fonctionnalités dans ton code et directement sur GitHub.
Top. Il faut former le PO à bien expliciter ses erreurs dans les issues, comme ça après on exécute cet agent et qui solde le problème directement. Parfait.
Ouais, finalement, ça devient un prompt, en fait.
Top. Ouais, non, intéressant. Ouais. Top. Et ça, par contre, c'est payant, c'est sous couvert.
Alors, c'est dispo que sur Copilot Plus et la version entreprise. Donc, ce n'est pas la première version où tu payes 10$. C'est la version au-dessus où tu payes, je ne sais plus, 29$ ou un truc comme ça.
OK.
Voilà. Peut-être que ça descendra après dans les budgets. Je ne sais pas.
Petit site intéressant qui vient en fait nous faire, c'est quoi ? C'est un annuaire avec tous les agents qui sont déjà disponibles là sur le marché, là tout de suite.
Peut-être pas tous, mais il y en a un bon paquet, c'est par catégorie, enfin en tout cas service ou fonctionnalité. enfin en tout cas service rendu. Okay. Et tu peux les trier en open source, tu peux voir ceux qui sont open source, tout ça. Donc il y a vraiment plein d'agents.
Ceux qui sont free. Voilà,
que tu peux. Ouais, free, open source. Ok. Et non, donc il y en a vraiment plein. Il en manque quelques-uns, mais j'en ai vu certains qui manquaient. Mais ouais, c'est intéressant. Si tu as besoin de faire des vidéos, il y a plein de trucs, il y a toutes les catégories.
Ok. Donc, c'est un annuaire avec tous les agents de l'écosystème. L'écosystème. Top.
Bah, l'IA, quoi. Tous les agents disponibles que tu peux utiliser, installer.
Après, je pense que pour être soumis à cet annuaire, il y a quand même un minimum de review. Faut que ça soit à peu près propre, quoi. C'est pas... Est-ce que potentiellement, tu pourrais retrouver des agents un peu malveillants là-dedans ou...
Alors, je crois qu'il faut soumettre.
Ils font déjà un peu le taf.
Je crois, donc. J'espère qu'ils font une petite vérif avant quand même, mais je sais pas.
Ok. Yes, intéressant. Si allez, on veut éviter, évidemment, petit outil de MCP, si vous utilisez Cursor ou d'autres agents, en tout cas d'autres IDE avec des MCP. Grâce à ce petit MCP de contexte qui s'appelle Context Set, en fait, on va diminuer les hallucinations par, je sais pas, 90 ou au moins 80, tout simplement parce que aujourd'hui, tous les énormes sites, en fait, ont soumis en fait leur base, leur documentation. En fait, à ce service-là, et ce service en fait vient récupérer, et vient mettre à jour la documentation. Et ce qui fait que, au lieu de se poser la question au modèle qui est derrière, donc si c'est Claude ou ChatGPT O4 ou les choses comme ça, qui ont été entraînés avec des données assez vieilles, potentiellement, en fait, là, on va récupérer la doc et donc on va injecter dans le contexte, d'où son nom, Context Set, on va injecter les données à jour. Et là, en fait, on voit la date de l'update, il y a 17 heures, la base de données de Next.js, la base de doc, excuse-moi, a été injectée. Et donc, ils ont directement injecté toutes les données. Ce qui fait que dans notre contexte de chatbot ou de notre agent, quand on va lui demander des informations, on va lui spécifier, tu vas utiliser Context Set pour répondre à ma question. Ce qui fait que même si la dernière fonctionnalité qui a été implémentée il y a 5 jours, elle est présente dans la doc, donc, elle a été envoyée à Context Set. Et donc, au moment où moi, je vais me demander l'information, ça va directement aller chercher la mise à jour. Indispensable.
Tu fais quoi, comment ça marche? Tu fais un arrobase
Context Set ou quoi, c'est moi, quoi, je me suis fait un snippet qui dit... en fait, tu fais un use Context Set à la fin de ton prompt. En fait, quand d'accord, tu lui demandes et tu lui dis use context set, et il va aller se connecter au MCP et il va aller récupérer. Okay. Si tu lui as dit Redis, voilà, donne-moi en fait les ACL du user temps ou comment je fais pour lister la liste des commandes autorisées de cet user dans Redis avec les ACL. Use context set, et lui va te sortir, ok, tu tapes telle commande, parce qu'il est venu se connecter à la base de documentation qui a été mise à jour. Là, sur la base de Redis, elle a été mise à jour il y a une semaine.
Bon, alors stop, on arrête d'en parler, parce que tu vas nous faire une petite vidéo.
Ouais, pour le coup, allez,
pour
chaud.
Pour expliquer l'utilisation de Context Set avec Cursor.
Ça marche. Voilà. Je fais une vidéo. Mettez un pouce et mettez Context Set. Tu mets juste Context Set en commentaire et comme ça, moi, ça veut dire que je fais la vidéo. Et c'est super intéressant.
Ça, nous montres tout, comment on l'utilise, Context Set, tout ça. Moi, ça m'intéresse de voir. Donc,
ok. On fait ça. Ça marche. Écoute, Patrick, on en reste là pour cet épisode du mois de juin.
Ouais, ça roule.
Ça te va?
C'est nickel.
Écoute, un grand merci à toi, un grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de l'épisode. Un petit pouce, un petit contexte 7 et puis comme ça, on fait la vidéo. Je fais la vidéo qui explique tout ça. Ciao, ciao, à très vite.
Ciao, à plus.